tout droit réservé, yvanlimana.net. Le présent ouvrage est la propriété de l'éditeur. Vous pouvez partager cet ouvrage, mais toute reproduction intégrale ou partielle et la vente sont strictement interdites. Les morts sont-ils toujours parmi nous? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, être immolé, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination, cartomancie, ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spectres, démons, ou les devins, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. Deutéronome 18, 10 à 12. Puisque les morts n'ont plus de corps physique, lorsque nous les voyons ou les entendons, nous voyons ou entendons un esprit. Dans cette partie, nous verrons de quelle façon la Bible nous enseigne qu'il n'est pas possible pour un être vivant d'entrer en contact avec un mort, pas plus qu'à un mort de communiquer avec un vivant. Si cela est vrai, pourquoi la Bible nous interdirait-elle de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire initialement? Pour comprendre que la communication avec les morts est impossible, il est nécessaire de savoir que l'homme est un être formé de trois parties, l'âme, le corps et l'esprit. En la première lettre aux Thessaloniciens 5, 23, nous lisons, que le Dieu de paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable, sans péché, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps désigne le corps physique nécessaire à la vie sur terre. L'esprit renvoie au corps spirituel de l'homme qui réside en lui. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel, 1 Corinthiens 15, 44. L'âme représente l'intellect, les pensées, les intentions et la capacité de raisonnement de l'homme. C'est l'âme qui contrôle le corps physique. Le corps physique ne commet pas de meurtre sans que l'âme soit au préalable submergée de colère et souvent d'esprit de manigance. L'adultère n'est commis seulement après que l'âme ait été envahie par le désir. Si l'âme n'est pas purifiée, elle poussera le corps physique à pécher. Le sang des sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament purifiait seulement la chair, le corps physique. Mais le sang de Jésus purifie le cœur, Hébreux 9, 13 à 14. C'est pourquoi Dieu nous a dit de coopérer activement avec lui à contrôler l'âme, l'esprit. Nous démolissons les raisonnements, un produit de l'âme ou l'esprit, et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée, pour l'amener, captive, à la connaissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens 10, 5. Votre corps spirituel, cependant, ne doit jamais être contrôlé par votre esprit, ni par l'esprit de qui que ce soit. Où est-ce que cela est-il dit dans la Bible? Avant de regarder les Écritures, nous devons comprendre le sens du mot écarté qui signifie être à part, divisé, complètement séparé, coupé. Dieu nous a enseigné qu'il a établi une division entre l'âme et l'esprit avec le dessein manifeste de le diviser en deux parties. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu divise deux choses afin de les maintenir séparées. Il sépara la lumière de l'obscurité, Genèse 1, 4, puis il ordonna que les deux soient réunis. De même, Dieu a établi une séparation entre l'âme et l'esprit afin que l'homme ne puisse pas contrôler son corps spirituel avec son âme. Car la parole de Dieu est vivante et agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, Hébreux 4, 12. Dieu a établi la division entre l'esprit et l'âme de l'homme de façon à ce qu'il soit incapable de contrôler son propre corps spirituel ou celui de quelqu'un d'autre. L'homme, dans sa rébellion, cherche quand même à avoir le contrôle de son esprit sans tenir compte de ce que Dieu a dit. Néanmoins, il ne peut pas défaire ce que Dieu a fait. Il ne peut pas assembler ce que Dieu a voulu tenir séparé au cours du monde actuel. Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne, Ecclésiaste 3, 14. Nous voyons que par le moyen de cette scission, Dieu a rendu impossible à l'homme le contrôle de son corps spirituel ou de celui de quelqu'un d'autre. Cependant, il n'est pas impossible à l'homme d'utiliser la puissance des esprits démoniaques pour contrôler son corps spirituel, puisqu'il ne peut désormais plus le faire lui-même, avec son esprit. De nombreuses personnes qui pratiquent des choses telles que les voyages astraux s'illusionnent en pensant qu'elles utilisent le pouvoir de leur propre esprit alors qu'en réalité, elles utilisent le pouvoir des démons. Ces pratiques sont démoniaques puisqu'elles défient Dieu. Elles prétendent restituer à l'homme sa capacité à contrôler son corps spirituel. Remarquez qu'elles se focalisent sur le contrôle de l'esprit et que l'hypnose est une des pratiques qui attribue à une autre personne le contrôle de votre esprit. Elle vise à faire croire à ceux qui les exercent qu'ils ont repris le contrôle de leur être intérieur, esprit, alors qu'en réalité ils ont cédé le contrôle de leur esprit à des entités maléfiques dont le but est d'empêcher l'obéissance au Seigneur Jésus. L'utilisation de la puissance démoniaque, quelle que soit sa forme, est de la pure sorcellerie. Or les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Galates 5, 19 à 21. Si vous n'héritez pas le royaume de Dieu, quel royaume pensez-vous hériter? Il n'existe pas de royaume ou de puissance neutre. Soit vous servez le péché qui mène à la mort, soit vous servez la droiture qui mène à la vie éternelle. Romains 6, 16, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons, vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. La première épître aux Corinthiens 10, 21. Demandons-nous maintenant si la puissance démoniaque peut être utilisée pour invoquer l'esprit d'une personne décédée, puisqu'elle peut être utilisée pour contrôler notre propre homme spirituel. La Bible nous donne un non catégorique. Tout d'abord, les morts n'ont pas plus le contrôle de leur esprit que les vivants. La différence est que l'être vivant peut utiliser la puissance démoniaque. Mais une fois décédé, il ne peut plus recourir à la puissance satanique pour contrôler son esprit, même s'il pratiquait la sorcellerie lorsqu'il était en vie. Pourquoi? Car Dieu a rendu la communication avec un mort impossible, pour quiconque, mort ou vivant. Cela est si poussé ou va si loin que pas même le sorcier le plus puissant ne peut accomplir cela. Remarquez que Dieu interdit aux vivants de chercher à communiquer avec les morts. Maintenant, remarquez que nulle part dans la Bible nous lisons un commandement adressé aux morts qui interdisent de communiquer avec les vivants. Ceci en raison du fait qu'il n'y a absolument aucun moyen possible pour eux d'y parvenir, pas même par le biais de puissances sataniques. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'émettre un ordre aussi inutile. Ils sont à jamais séparés de ce monde physique actuel. Les esprits des morts, à la fois justes et injustes, sont totalement maîtrisés par le Seigneur, qui ne leur permettra pas d'utiliser la puissance démoniaque pour communiquer avec les vivants. Car il y a de l'espoir pour celui qui est lié à tous les vivants, et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants savent au moins qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Il n'y a plus pour eux de rétribution puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, 4 à 6. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien qu'un chien soit plus faible qu'un lion, il lui est préférable, car il vaut mieux avoir la force d'un chien plus faible que l'inutilité d'un lion mort. Le lion est mort, et par conséquent, il ne peut pas vous aider, vous parler, vous voir ou entretenir quelconque relation avec vous, même s'il était votre animal de compagnie lorsqu'il était en vie. Leur souvenir est oublié. Nous savons que nous n'oublions pas l'identité des personnes défuntes, même si elles ne sont plus avec nous. Cependant, on ne les évoque pas quotidiennement dans nos conversations comme nous le faisons avec les vivants. L'usage biblique du mot souvenir apparaît souvent dans un contexte similaire. Pensez-y lorsqu'on dit « s'il vous plaît, souvenez-vous de moi dans vos prières ». Nous vous demandons de vous rappeler de nous dans vos prières quotidiennes, et pas que vous priez pour nous une fois tous les 3 ans. Aussi leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Il est inutile d'avoir peur d'une personne décédée qui nous détestait de son vivant puisque sa haine est morte avec elle. Péri signifie mort. Cela ne sert à rien de vous consoler par le fait qu'un parent ou un ami décédé vous aimait. Ils ne peuvent plus vous aimer car leur amour a péri lorsqu'ils ont péri. Ils ne peuvent plus vous jalouser car toute envie a péri avec eux. Finalement, nous lisons, et ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Une part revient à dire participer à /prendre part. En d'autres termes, les morts ne peuvent plus prendre part aux événements de la vie, ils ne peuvent plus interférer en faveur du bien ou du mal. Sous le soleil renvoie encore au monde actuel. La Bible nous dit clairement que les morts sont à jamais et complètement séparés des événements du monde actuel. L'esprit des défunts, les fantômes, les revenants, les esprits errants ou quel que soit le nom que vous donniez à ceux qui hantent les maisons et qui apparaissent par intermittence ou lors de séances de spiritisme, ne sont pas les esprits des personnes qui ont vécu sur Terre. Mais si vous croyez qu'ils le sont, par imposture, vous entrerez en contact avec, en réalité, des esprits mauvais. Certains diront qu'ils sont convaincus que leur tante Martha ou quelle que soit l'identité de la personne défunte dans leur vie, est venue et leur a parlé à un certain moment et les a encouragés directement de l'au-delà. Cela lui ressemblait tant et paraissait vraiment être elle. D'autres soutiendront le fait que si ces esprits disparus qui ressemblent aux personnes que nous avons connues de leur vivant, sont en réalité des esprits mauvais, comment se fait-il alors qu'ils ne font jamais de mal à personne, ni ne commettent aucune chose mauvaise? Rappelons-nous que Satan est satisfait s'il ne fait rien d'autre que de vous empêcher d'être sauvé. Et rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. On affirme souvent qu'invoquer les morts ne peut pas être impossible puisque nous lisons en 1 Samuel 28, 7 à 14 que l'on invoque Samuel des morts. Certains chrétiens répondront que ce n'était pas véritablement Samuel qui est apparu. Cependant, nous ne pouvons pas changer le fait que la Bible a effectivement dit que c'était le véritable Samuel. En 1 Samuel 28, 11 à 15, nous lisons, puis la femme dit, la sorcière de Zindor, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Et lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul. Le roi lui dit, n'aie pas peur. Que vois-tu? La femme dit à Saul, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle apparence a-t-il? Elle lui dit, c'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saul sut ainsi que c'était Samuel. Remarquez que l'Écriture dit que la femme poussa un grand cri. Pourquoi? L'Écriture révèle qu'elle avait peur. Nous lisons, et le roi lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi avait-elle peur? Elle avait peur car elle savait que ce n'était pas son pouvoir, elle savait que ce n'était pas l'esprit familier, démon guide qui tentait d'imiter le pouvoir du Saint-Esprit, qu'il habitait qui avait invoqué Samuel. Si elle pensait qu'elle invoquait Samuel et qu'elle avait le pouvoir de le faire, alors pourquoi aurait-elle eu peur? Après tout, elle conduisait régulièrement des séances. Qu'est-ce qui était si différent cette fois-ci? La différence est qu'elle savait que le spectre qu'elle vit n'était pas l'œuvre d'un esprit familier mais plutôt l'apparition du vrai Samuel. Dans l'Écriture, nous lisons que la femme dit, « Car tu es le vrai Samuel ». Elle demande aussi, « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Si Samuel est bien la personne qu'elle espérait invoquer en premier lieu, pourquoi dit-elle qu'elle a été trompée? A-t-elle accompli ce qu'elle avait l'intention de faire? Non. Elle dit qu'elle est trompée parce qu'elle a compris qu'elle était supposée utiliser la puissance démoniaque se faisant passer pour le vrai Samuel, avec l'intention de tromper. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est produit, et cela lui a inspiré une grande crainte. Samuel fut vraiment invoqué mais pas par son biais, ni par celui de l'esprit familier qui résidait en elle, ni par Saul ou par toute autre entité. Cette femme savait qu'invoquer le vrai Samuel ou toute autre personne défunte était absolument impossible, c'est pourquoi il était nécessaire de leurrer par le biais d'une contrefaçon démoniaque de la personne décédée grâce à l'esprit familier, démon, avec lequel elle opérait. Cette même supercherie œuvre dans les séances de spiritisme moderne, et au travers de prétendus messages prophétiques adressés par des morts et transmis par le biais de médiums. À nouveau, ceci est de la sorcellerie. Contrairement à de nombreuses personnes qui pratiquent la sorcellerie à notre époque actuelle, les sorcières et sorciers des anciens temps avaient pleinement conscience du pouvoir démoniaque qu'ils utilisaient, et ils ne le confondirent que très rarement avec la puissance de Dieu. Des études de cas et des expériences de mort imminente sont abordées dans le livret Lumière biblique sur les choses qui se heurtent aux ténèbres, tout droit réservé, yvanlimana.net. Le présent ouvrage est la propriété de l'éditeur. Vous pouvez partager cet ouvrage, mais toute reproduction intégrale ou partielle et la vente sont strictement interdites.